BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur le web et puis bien sûr, vous le savez, en podcast à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Nous sommes vendredi 22 mars 2024. Nous allons parler des introductions en bourse à Paris. C'est fini pour les actionnaires individuels, les actionnaires individuels. On a besoin d'explications. Pourquoi les particuliers ne pourront plus participer? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? François Monnier, des rédactions d'Investir, pour nous décrypter cela. Les 7 fantastiques en bourse, c'est aussi fini. On assiste à des évolutions de cours en ordre complètement dispersé. Antoine nous l'a commenté cette semaine depuis Euronext. On va essayer d'analyser avec nos experts, dont Antoine depuis Euronext et aussi Antoine Fraisse-Soulier d'Itoro et toujours François Monnier, essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis on aura nos deux traders, comme tous les jours, le match des traders pour décrypter la séance en cours du côté du CAC 40. À 10h30, comme tous les jours, votre dose d'économie avec Nicolas. Faut-il monter les impôts? C'est la question à laquelle il répondra vers 10h30. Aujourd'hui, on vous coach pour essayer de mieux comprendre ce qu'on appelle les éléments déjà pricés par le marché. Qu'est-ce que ça signifie? C'est Marc Raffard du Café de la Bourse qui vous coachera. Et puis, on fera le point sur la semaine des cryptos. Vous le savez, le Bitcoin a perdu près de 15% de sa valeur après avoir atteint des sommets historiques. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est l'équipe de CoinHouse qui sera avec nous pour comprendre tout cela. Et puis, au programme, il y a vous. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous écouter en podcast. Merci à vous. Vous continuez à nous écrire. Vous continuez également à nous suivre. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn en message privé. Nous partons rejoindre Antoine du côté d'Euronext pour faire le point sur la séance. Il est 10h05 sur BFM Business.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Cher Antoine, légère baisse du côté de Paris, un marché qu'on peut qualifier d'assez indécis.
Oui, Lorraine, c'est vrai qu'on termine cette semaine, bon, qui aurait été particulièrement riche en actualité, notamment en matière de décisions et de commentaires des grandes banques centrales sur l'état des marchés et les dynamiques monétaires. On était plutôt positif, on a signé un nouveau record historique sur le CAC 40 hier à l'ouverture. Puis là, effectivement, la tendance est un petit peu plus indécise, malgré une clôture en hausse du côté de Wall Street. Un CAC 40 qui perd donc 0,2% à 8163 points. Alors, singulièrement, les valeurs de croissance sont quand même en bas de tableau. On va le voir, mais l'Euronext Tech Leaders est en repli de 0,45% et c'est un petit peu plus mitigé du côté des autres places européennes. On a le DAX à Francfort qui gagne 0,1%, l'Eurostock 50, moins 0,37%. Alors très très clairement, les valeurs de croissance en bas de tableau, ça se voit à Paris sur le CAC 40, LVMH, moins 2,23, on est à 829 euros, Hermès, moins 1,93 à 2363, on a Dassault Systèmes, moins 39 à 40,69 euros, et puis de la tech, hein, on le voit, ST Microelectronics, hein, qui recule d'un 1,11% à 40,07. On a Dassault Systèmes à moins 1,39 à 40,69 €. Capgemini aussi moins 0,28 à 215 €. En revanche, à la hausse, alors très amusant, dans cette séance un petit peu indécise, on revient sur les dossiers en difficulté, hein, de la thématique que vous évoquiez d'ailleurs hier, Lorraine, dans votre émission. On a EuroAPI, hein, qui reprend quasiment 5% à 2,52 €. Sur le SBF 120, on a aussi Atos qui signe un rebond assez impressionnant, plus 3,9% à 1,76 €. Téléperformance aussi, plus 3,46 €. On est à 91,50 €. On retrouve un petit peu d'appétit pour le risque sur ces dossiers-là. Mais on est vendeur sur les sociétés les plus solides qui ont signé de bonnes performances ces dernières semaines. Au milieu de tout ça, le CAC donc sur une légère baisse. On est à moins 0,17%, 8165 points. Et du côté de l'euro face au dollar, 1,0821. On a du mal à trouver des supports, hein, depuis qu'on a passé à la baisse le seuil d'1,09.
Voilà, merci beaucoup Antoine. On vous retrouve dans une heure pour faire le point sur la séance et puis aussi pour faire le plein de surprises parce que vous avez décortiqué les chiffres hebdomadaires de Merrill Lynch. Et il y a des petites surprises dedans. On en parle dans une grosseur avec vous. Pour le moment, on va faire le point sur les actualités patrimoniales, financières qui ont besoin d'être maîtrisées par vous pour être meilleurs investisseurs.
Tout pour investir. Le journal de votre argent.
Et notre rédacteur en chef, le vendredi, on l'emprunte aux rédactions d'Investir. Bonjour François Monnier.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes avec nous ce matin comme un croque-mort. Vous allez nous enterrer deux éléments importants de notre vie d'épargnant. D'abord, pour les actionnaires individuels, c'est fini les introductions en bourse à Paris. Racontez-nous.
Oui, c'est presque fini. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un énorme lobbying des banques pour obtenir le fait qu'il n'y ait plus besoin d'allouer 10% du capital d'une société qui s'introduit à destination des particuliers. Les investisseurs institutionnels peuvent racheter la totalité des titres qui se présentent et qui sont donc offerts lors d'une introduction en bourse. Ça aura bien sûr beaucoup de conséquences. La première, c'est que ça exclut bien sûr les actionnaires individuels des introductions en bourse. Et l'argument qui est avancé par les banques, c'est d'expliquer que le fait qu'il n'y a pas d'introduction en bourse et que le fait qu'il y ait des particuliers, eh bien, ça gêne la rapidité d'exécution d'une introduction en bourse, et ce serait une des raisons qui expliquerait qu'il y ait peu d'introductions. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était une année catastrophique au niveau des introductions en bourse. Mais il n'y a pas beaucoup d'IPO non plus aux États-Unis ni en Europe. C'est un phénomène global, parce qu'aujourd'hui, on assiste à une vraie concurrence entre le private equity, qui est capable de lever maintenant des sommes assez importantes par rapport aux actifs cotés. Et donc, finalement, la concurrence, et ils sont prêts à payer des prix plus importants aussi. Donc, il y a une vraie concurrence entre le private equity, le capital risque et la bourse. Et au cours des deux dernières années, c'est le capital risque qui a remporté la bataille. Donc l'argument de dire il n'y a pas d'introduction en bourse, ce sont les particuliers qui freinent, la réponse est non, parce que quand on regarde au niveau mondial, c'est pas décisionnaire. La deuxième chose, on dit souvent on a du mal à introduire en bourse des entreprises parce que il n'y a pas assez d'argent, on manque de capitaux, et les capitaux, on les trouve à Wall Street. Mais si vous supprimez l'afflux des particuliers pour les introductions en bourse, vous n'allez pas avoir beaucoup plus d'argent, puisque vous coupez d'un robinet. Donc le deuxième argument qui est de dire il ne tient pas. Et puis après, on voit que, et c'est ça, c'est quelque chose qui est très important, et on l'a encore vu pendant le Covid, un actionnaire individuel, c'est un investisseur qui garde ses titres en période de crise. Et donc, ça réduit un petit peu la volatilité d'une action. Pendant le Covid, tous les institutionnels ont fui la bourse. Et les particuliers, eux, sont restés, et ils ont bien fait parce qu'ils se sont enrichis. Parce qu'il fallait tenir, il fallait avoir un peu de sang-froid, et on a vu qu'après, il y a eu un énorme rallye boursier. Donc, les arguments qui est de dire, après, on peut les comprendre pour un banquier. Le banquier, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir faire une vente à la Black Friday, c'est-à-dire, j'introduis en bourse une société, je prends une grosse commission, et en 48 heures, c'est bouclé. Et c'est vrai que quand on autorise les particuliers à participer à une introduction en bourse, il faut 6 séances de bourse. Donc c'est sur 6 jours.
C'est presque le temps long.
C'est presque du temps long. Sauf que intellectuellement, c'est une aberration de dire que on se lève le matin et on achète des actions comme une baguette de pain, parce que la baguette de pain, à la fin de la journée, probablement elle sera mangée. Alors que les actions, vous allez les garder pendant même plusieurs années. C'est du temps long, c'est de l'épargne longue, et c'est comme ça qu'on fait de la performance. Donc se dire qu'il faut absolument faire des ventes flash au moment d'une introduction en bourse, ça rime à rien. Si on n'est pas capable de dire que le prix de cette société, à peu près, on prend l'exemple, c'est 10 euros cette société, et qu'on n'est pas à l'aise de tenir ces 10 euros pendant une semaine, ça veut dire que ce n'est pas le bon prix. Ça veut dire que le prix, il est trop élevé. Alors c'est vrai que la conjoncture peut évoluer. Mais et quand même, si la société, on n'est pas capable de l'évaluer pour 6 jours, ça veut dire qu'il y a un problème sur le modèle économique, sur les prévisions, sur la solidité des objectifs. Et donc là, ça remet en cause un peu le modèle. Parce que vraiment, la bourse, c'est du temps long. C'est un investissement long. Donc on ait le temps de réflexion de pas quelques heures, mais quelques jours, ça me paraît être du bon sens. En tout cas, la philosophie du marché action, c'est pas de faire des ventes flash, c'est pas du Black Friday, c'est de l'épargne, et c'est de l'épargne qui sert à financer l'économie, ça sert à financer les entreprises, ça sert à financer aussi les retraites des épargnants. Donc l'écosystème est fait pour que ça soit de l'épargne longue, et non pas, faut pas présenter une introduction en bourse comme une vente flash. On doit la terminer en 48 heures, voire si c'est possible en 12 heures.
Voilà, une mauvaise idée qu'on aimerait bien voir enterrée. Une autre chose ou d'autres éléments que vous enterrez ce matin, si je puis dire, François, ce sont les 7 fantastiques. En tout cas, d'un point de vue boursier, les 7, c'est fini.
Absolument. D'abord, c'est une terminologie qui est née au cours de l'été dernier, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait le S&P, il y avait le Nasdaq, et il y avait cette valeur qui semblait ne plus répondre aux lois de la gravité. Et c'était ces sept valeurs qui emmenaient les bourses mondiales, Wall Street, le S&P et le Nasdaq à des sommets. Et on avait une cohérence, ces sept valeurs montaient, j'ai envie de dire, enchaîner des séances positives les unes après les autres. Et c'est cette valeur, ben là on voit depuis le début de l'année que c'est plus du tout la fête. Et que déjà dans les 7 fantastiques, il y en a 2 qui sont plus du tout fantastiques. D'abord on a Tesla qui connaît vraiment une énorme chute, hein, ça perd près de 30% alors que Nasdaq progresse et que les autres fantastiques arrivent à progresser. Donc on a un acteur qui est à contre-courant. Nvidia à l'extrême gagne plus de 85% et vous avez Tesla à moins 30%. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Tesla n'a plus de croissance. Il y a une guerre des prix qui est arrivée d'Asie et notamment de Chine. Donc, ils ont encore de la hausse en termes de volume, mais pas en chiffre d'affaires. Et donc, bien sûr, ça change l'appréciation parce que si vous êtes fantastique, vous devez continuer à faire rêver. Et là, comme il y a un problème sur le rêve, eh bien, on a un déclassement de Tesla. Autre déclassement qui est en cours, c'est celui d'Apple. Apple est en baisse de près de 10% depuis le début de l'année. On voit que la croissance, elle commence à ralentir. Il y a des problèmes de commercialisation des iPhones en Chine. Et puis là, cette semaine, on a l'autorité... Enfin, il y a le département américain de la justice qui est en train de mener une enquête en disant qu'il y a peut-être une position abus dominante dans le domaine des smartphones. Et donc, c'est vrai qu'ils ont un produit qui fait rêver tout le monde, mais...
Et qui coince un peu les gens dans leur écosystème.
Est-ce qu'il, au niveau des applications qui arrivent pour essayer de circuler sur un iPhone, est-ce qu'elles sont pas gênées? Est-ce qu'il y a des problèmes de commission, etc. Donc il y a une vraie enquête, ça déstabilise bien sûr le modèle économique. Et on a Apple qui est en train de décrocher. Alors que les autres continuent de raconter des belles histoires. Mmh. Et quand on voit le dénominateur commun de celles qui sont capables encore de progresser, eh ben il y en a qu'un, c'est l'IA. C'est l'IA qui continue d'emmener les acteurs plus haut. Nvidia en tête parce qu'aujourd'hui c'est l'acteur 100% IA, mais on a aussi Microsoft avec ChatGPT et on a aussi Amazon et Alphabet. Amazon, ben, c'est le cloud, hein, parce que comme vous le savez, quand on utilise de l'IA, on a besoin de plus en plus de serveurs. Mm-mm. Et le champion du cloud et des serveurs, eh ben, c'est Amazon. Et puis on a Alphabet qui est en train de travailler à une IA compétitive par rapport à celle de ChatGPT, et donc ça fait rêver les investisseurs. Et donc on a encore j'allais dire une tendance positive, mais ils sont plus 5, ils deviennent 5.
Ils sont plus 7,
ils passent à 5.
Voilà, c'est un peu les 10 petits nègres là. Au fil des semaines, on a peur
Exactement.
D'en perdre encore.
Donc on va voir combien il en reste à la fin du semestre.
On verra ça avec vous au fil des semaines, cher François. Merci pour cet enterrement de rigueur des éléments boursiers qui nous font vivre au quotidien. Vous restez avec nous, François. On va passer une tête chez nos traders pour comprendre ce qu'on fait dans une journée comme ça, un petit peu de la décision côté CAC 40. Et puis après, on vous retrouve, François, avec nos autres chroniqueurs pour décrypter l'actualité plutôt boursière ce matin.
Tout pour investir, le match des traders.
Nous sommes ce matin avec Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et nous avons
bonjour tout le monde.
Également bonjour. Dorian Abadi, analyste chez Meilleur Taux, qui est avec nous. Bonjour Dorian.
Bonjour Lorraine.
Dorian, que fait-on dans une journée comme ça qui démarre un petit peu dans l'indécision? Quels sont vos conseils? Quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller aujourd'hui?
Oh, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire ce vendredi dans la mesure où on n'attend aucune actualité majeure sur le front économique. Pour le moment, le CAC 40 perd aux alentours de 0,20%. On a surtout, en fait, face à cette baisse, les 8150 points et par extension les 8100 points comme objectif à la baisse. Et puis à nouveau, les 8200, voire les 8300 pour la semaine prochaine, puisque c'est vrai qu'on termine une semaine chargée. Et qui a failli assez mal se passer d'ailleurs pour le CAC. Hein. On sauve les meubles pour le moment. Il est globalement à l'équilibre depuis lundi matin avec un nouveau record sur les 8230. Mais à nouveau, ce vendredi, c'est vrai que le marché est toujours largement piloté par les volumes investis, par les algorithmes, relativement peu par les opérateurs humains. Donc voilà, c'est une séance assez calme qui nous attend faute d'actualité majeure. Et puis surtout, on continue de digérer les tensions sur le marché du luxe, hein, puisque LVMH perd un peu plus de 2% ce matin. Alors vous le savez, hein, c'est la première capitalisation du CAC, ça tire sa tendance à la baisse naturellement ce matin. Et puis pour rappel, voilà, on a eu cet avertissement sur résultat de Kering il y a deux jours, moins 10% sur le chiffre d'affaires attendu au premier trimestre. Ça continue de peser sur la performance de l'indice français, qui est fortement pondéré sur le luxe. Voilà. Donc c'est surtout ce sujet, l'impact du luxe sur le CAC, que l'on va surveiller aujourd'hui chez Meilleur Taux Placement en attendant les échéances de la semaine prochaine.
Et vous, Jean-Louis, de votre côté, comment finissez-vous cette semaine qui a failli mal se passer, nous disait Dorian?
Bah écoutez, j'espère la finir en roue libre, comme ça on va se reposer un petit peu, mais c'est vrai que c'était un peu animé. Donc, on a une volatilité implicite qui baisse tout doucement, on est à 10,2, on n'est pas... Il faut pour rentrer dans une phase de complaisance que ça dure un petit peu. Hein. Donc, il ne faut pas imaginer que parce que elle baisse, on va immédiatement avoir un état de complaisance. Non, c'est pas comme ça. On est à 380 millions, en dessous de 400 millions de volume. Donc, c'est encore assez faible. Les marchés, si vous voulez, sont vraiment. Ils se disent qu'on a peut-être atteint quelque chose parce que regardez LVMH aujourd'hui elle perd 2%, là bon elle remonte un petit peu à 90 mais personne n'y croyait au début de l'année, elle a pris 37%. Donc aujourd'hui c'est elle qui pèse un peu sur la sous-performance du CAC 40 par rapport au DAX par exemple. Donc ça amène, si vous voulez, ça, c'est une addition de choses comme ça, de petites indications, de petits warnings, de petits clignotants, qui nous fait peut-être penser qu'on est peut-être au bout de quelque chose, donc au bout de la hausse. Pour l'instant, c'est juste des clignotants d'arrêt au stand. Mais c'est vrai que bon, voilà, ça peut pas continuer éternellement de progresser. Il faut en être conscient. Nous ce matin, on a fait acheter à partir de 8000, de l'ouverture en gros, c'était possible 8170-75, jusqu'à éventuellement un repli jusqu'à 8145. Alors je parle du futur CAC 40, le futur, il est à peu près 28 points au-dessus du cash. Hein, c'est le taux d'intérêt, moins les dividendes, mais là, Total a distribué, donc du coup, on devrait rester à peu près stable comme ça. On voit que par exemple, Téléperformance cicatrise, et puis elle commence à s'améliorer un peu. Mais il y a de la prudence et c'est toujours la même chose en fait. Vous avez les valeurs fortes qui restent fortes et les valeurs faibles qui restent faibles. Et ce phénomène, c'est y compris dans les valeurs du CAC 40. Ça montre une hyper méfiance des opérateurs, des investisseurs. Par exemple, bon, ben, sur les mid et small, toutes celles qui sont au tapis, et même les grosses, hein, c'est ce que je vous disais, celles qui sont au tapis, ben, on hésite à aller dessus parce qu'on se dit, si elle est là, c'est que quand un marché est à 8002, difficile de se dire qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas montée précédemment, ça veut dire qu'il y a des problèmes, donc il faut faire attention et on les achète pas vraiment. Parfois, la spéculation qui s'est fait avoir à plusieurs reprises est très calme actuellement parce que on s'est aperçu que sur les mid et small, la volatilité de la liquidité est extraordinairement forte, c'est-à-dire tout d'un coup, on croit qu'il y a du volume, ça vient, c'est de la spec, et puis ça disparaît en 5 secondes. Donc voilà, il y a une situation de méfiance. On constate que l'euro-dollar a beaucoup rebaissé, même totalement effacé sa hausse de la Fed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réflexion à froid, qui provoque le retour en arrière de l'euro-dollar, ben on se demande pourquoi ça ne fait pas un peu la même chose sur les actions. Non, les actions restent toujours extrêmement résilientes. Et à regarder les choses donc en rose, avec des flux, et c'est vrai que Dorian l'a dit quand il a commencé, des flux ETF toujours investissement, enfin avec des inflows importants, il y a à peu près 20 milliards par an sur les actions, etc. Donc voilà, on a une situation un peu importante à surveiller, un petit peu, il n'y a pas de message encore, si vous voulez, il n'y a pas de message fort, ça va faire qu'on va être hyper méfiant, tranquille, et puis je vous dis, on va espérer que ce soir, jusqu'à la clôture de New York à 21h, on soit encore dans une situation un peu de repos, on va dire. Bon. Ça serait pas mal.
Merci beaucoup, cher Jean-Louis, qui va finir, il l'espère, en roue libre sa journée sur les marchés. Merci à tous les deux, Jean-Louis Cuissac de chez Perceval Finance Conseil et Dorian Abadi de chez Meilleur Taux pour ce décryptage du vendredi matin. Vous restez avec nous, on continue à parler des actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Et l'équipe du vendredi, François Monnier à sa tête, directeur des rédactions d'Investir, est toujours parmi nous. Rebonjour François.
Bonjour.
Nous sommes rejoints par la paire d'Antoine. Antoine Fraisse-Soulier de chez Itoro est avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et Antoine Larry-Gaudry de Puronext connecté avec nous pour parler rapidement quand même d'une introduction en bourse qui a eu lieu hier, celle de Reddit. Antoine Fraisse-Soulier, vous nous racontez ?
Oui, alors effectivement, c'est pas comme en France où aux États-Unis on a des IPO. Alors Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social qui a énormément marché puisqu'il y a 268 millions d'utilisateurs hebdomadaires, connu notamment pour Wall Street Bet, hein, qui a fait monter les mêmes stocks, notamment GameStop, etc. Alors Reddit, c'est une société qui aujourd'hui n'est pas rentable, qui perd de l'argent, hein, qui a perdu 90 millions de dollars en 2023 pour 800 millions de chiffre d'affaires. Ceci étant, ce premier jour d'introduction nous rappelle d'ailleurs les journées en 2021 lorsqu'on avait des boîtes tech qui prenaient 30-40%. Reddit a pris 47% pour le premier jour de son introduction en bourse. Voilà, donc un engouement énorme puisque l'action a été sursouscrite à 5 fois. Voilà, donc vraiment, premier jour en fanfare pour Reddit. On verra par la suite si ça continue, mais un engouement incertain pour cette société.
François, votre regard dessus ?
Ouais, moi, j'attendrai que l'engouement retombe un petit peu pour m'intéresser à la société. Il faut voir que son cours de bourse va beaucoup être dépendant, un, de la volatilité du marché, et deux, l'orientation de la bourse. C'est-à-dire que c'est un modèle économique qui fonctionne plutôt bien. Enfin, pour l'instant, c'est en perte, mais la perspective de gain sera là si la bourse reste bien orientée avec de la volatilité. Parce que quand il y a de la volatilité, il y a des commentaires. Quand la bourse est plutôt bien orientée, eh bien, les personnes qui postent des messages ont tendance à gagner un peu plus d'argent qu'en temps de bourse calme. Donc, là, on a quand même... en fait, en tout cas, le timing de l'introduction en bourse, il est fantastique. Ils l'ont fait au niveau à un niveau record où on se pose des questions sur est-ce qu'il y aura ou pas des baisses de taux des banques centrales. La Fed la première en juin, donc au niveau timing en termes de communication financière, c'est ce qu'il faut faire. En tant qu'investisseur, justement, il ne faut pas tomber dans le piège de la communication financière et il faut attendre.
Antoine, depuis Euronext, on le dit, hein, Reddit, société qui perd de l'argent, mais qui est déjà valorisée 8 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous écoutent et qui se diraient, est-ce que j'y vais ?
Ce qui est intéressant sur Reddit, c'est que bon, la bourse, elle voit le temps long. Et Reddit, bon, bah, vous connaissez, c'est quand même un réseau social. Alors, on parle des mêmes stocks, etc. Reddit, c'est aussi le terrain de jeu, des forums de discussion sur les jeux vidéo, de pas mal de streamers. Puis également de pas mal d'une espèce de petite faune de complotistes, de platistes, de supporters de Trump. On a l'impression qu'en achetant un petit peu de Reddit en ce moment, on achète un modèle économique qui est basé sur une forme d'hystérisation de l'opinion. On va dire les choses comme elles sont. Ça a fait les choux gras de Rupert Murdoch, ça a fait les choux gras d'énormément de manias des médias aux États-Unis. Il y a en vue une élection présidentielle américaine qui pourrait voir potentiellement le retour de Donald Trump. Est-ce que c'est pas le moment de jouer sur Reddit dans cette optique-là ? En tout cas, peut-être qu'énormément de placements qui ont été faits lors de l'introduction en bourse ont ça comme argument. Et c'est peut-être une thématique d'investissement intéressante si on regarde vraiment les choses objectivement du côté des États-Unis.
La thématique de l'hystérie, Antoine.
Oui, à court terme, c'est vrai que ça pourrait continuer d'augmenter. Hein. Il n'y a pas de raison que ça se replie. Effectivement, et aussi, la bourse oblige au moment d'être rentable. Et donc, le modèle économique de Reddit qui s'apparente un peu à un Facebook, par exemple, basé uniquement sur la publicité, mais il faudrait peut-être vendre de licences de data. C'est aussi une piste à explorer pour Reddit. Et donc, ça, le groupe pourrait être rentable dans les prochains trimestres.
Messieurs, un mot rapide de Banque Centrale quand même. C'était une semaine de décision, une semaine de communication. Une hausse, une baisse et trois statu quo. C'est le bilan qu'on peut faire des différentes décisions des banques centrales. Amérique, Japon, Angleterre, Australie. J'en oublie une.
Et Fed.
Et Fed, bien sûr, pardon. Antoine, ce qu'on doit retenir, là, pour les investisseurs particuliers et particulières qui nous écoutent, oui, de ces prises de décision.
Alors, si on commence par le Japon, qui est à contre-courant de toutes les autres banques centrales, elle a relevé ses taux pour la première fois depuis 2007. Elle sort des taux négatifs aussi. Et c'est vrai que la Banque du Japon donc, a une inflation finalement supérieure à son objectif. Et par conséquent, c'est assez logique que la BOJ, la Bank of Japan, augmente ses taux. Alors, elle l'a fait de manière très, 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 très faible, hein, puisqu'on passe de moins 0,1 à 0. Entre 0 et 0,1. Donc, vraiment, c'est donc dans l'épaisseur du trait. Par contre, et donc, le yen a eu finalement a baissé, hein, puisque cette décision était largement attendue. Ce qui fait que le yen, finalement, s'est déprécié face aux autres devises. Après, ce qu'on peut dire, c'est que la Fed a maintenu, comme ce qui était anticipé, ses taux d'intérêt, mais elle a conforté, finalement, le marché à ce que la première baisse interviendra au mois de juin. Mm-hmm. Donc, là, on a très probablement une première baisse pour le mois de juin. Et puis, on se peut dire, c'est que la Banque Nationale Suisse a baissé ses taux. C'est la première grande banque centrale à baisser ses taux, puisqu'elle a estimé que sa politique pour lutter contre l'inflation, pardon, était efficace. Et donc, elle a ouvert le bal, j'ai envie de dire, sur les baisses de taux.
Bon, François, on retient une chose, simplement, tout va bien se passer parce que la Fed va baisser ses taux.
Bah c'est ça, c'est exactement ça, Lorraine. On avait besoin de se rassurer, hein, parce que il y avait une petite musique qui montait que finalement, peut-être que la baisse des taux n'était pas si évidente que ça au niveau des États-Unis, voire de l'Européens, et que la première baisse des taux n'aurait peut-être pas forcément lieu en juin. Et après, on sait qu'on va rentrer dans une campagne électorale assez dense, peut-être complotiste, on va voir ce que fait Reddit. Et donc, on sait qu'il y a une énorme pression sur Jérôme Powell. Donc, on avait besoin de se rassurer qu'il y ait bien une baisse des taux. Et il est vrai que l'inflation fait quand même de la résistance. On le voit en Europe, on le voit aux États-Unis. Donc, la position des banquiers centraux aujourd'hui, elle n'est pas extrêmement confortable. Ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire que le marché de l'immobilier et le marché notamment du crédit immobilier, il ne faut pas s'attendre à voir les taux refluer massivement. Les taux vont rester quand même assez proche des niveaux actuels. Donc le marché immobilier va continuer d'être sous pression, en tout cas au niveau des prix. Et là, on va voir ce qui va se passer en juin. On voit que tout le monde donne un énorme rendez-vous sur le mois de juin. Ça va être probablement, en tout cas, il y aura deux mois décisifs dans l'année. Bien sûr, l'élection début novembre aux États-Unis et la première baisse des taux, Fed BCE en juin. Ce sont les deux plus grands rendez-vous, en tout cas, attendus et programmés pour les investisseurs.
Contre vents et marées, le marché continue de payer. Merci Jérôme, c'est ce que nous dira Franklin Pichard tout à l'heure de Kipling Finance, qui nous apportera son regard sur le marché et sur évidemment ce qu'il faut retenir de la semaine. Merci beaucoup messieurs, merci à tous les trois. Merci François Monnier des rédactions d'Investir, merci Antoine Frassoulier de l'équipe d'Itoro et merci Antoine de Pionex qu'on retrouve dans une petite heure avec des nouvelles surprenantes, vous verrez. Vous restez avec nous juste après la pub, une dose de dose. Il n'y a pas que les marchés qui montent, c'est vos impôts aussi qui vont peut-être monter. Nicolas Dose vous explique ça dans quelques secondes, à tout de suite.
Tout pour investir, dose d'économie.
Votre dose quotidienne d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour cher
bonjour,
Nicolas.
Bonjour, bonjour.
Bon, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État.
Non, non.
Vous allez nous dire qu'il faut augmenter les impôts.
Non, il ne faut pas augmenter les impôts.
Ah bon, mais alors on fait comment?
Non, d'abord je vous dis pourquoi je considère qu'il ne faut pas augmenter les impôts. La première raison, c'est qu'on a le record des prélèvements obligatoires au monde. Ça va, ça suffit. Voilà. Deuxième chose, en 2017, s'il y a bien un marqueur positif dans le bilan du président de la République, c'est la réforme de la fiscalité. Soudainement, enfin, on met notre niveau de fiscalité sur les entreprises et sur le capital à des niveaux normaux, à peu près comparables au reste du monde. Troisième raison, parce que, là encore, s'il y a bien un marqueur positif, c'est qu'on a réussi à installer une forme de stabilité fiscale quand même. Et sortir de l'instabilité chronique, c'est pas le moment de recommencer.
Ouais.
Et non, parce que le choc fiscal, on a essayé. Ça commence à la fin du gouvernement Fillon, ça continue sous le gouvernement Hollande. Alors on vous explique que aller taper les entreprises et les riches, c'est pas grave, tu parles, c'est un appauvrissement généralisé, on le sait. Donc la rigueur par la fiscalité, non. Et alors je dis non, il faut pas augmenter les impôts. Et pourtant, je crains malheureusement que ça risque d'arriver. Pour une raison qui est l'équation suivante. On a besoin de dépenses absolument astronomiques devant nous. Transition verte, défense et vieillissement. On a une croissance qui faiblit. On est quand même sur un rythme du 1% par an jusqu'en 2027. C'est à peu près ça qui se dessine. Ensuite, on a une incapacité chronique à engager une réforme de l'État.
Bon, oui.
On a fait tous les comités théodules du monde. Depuis 1974, on n'a jamais signé un budget positif. tous les budgets ont été dans le rouge. Et nous sommes aujourd'hui le pays d'Europe qui a la plus grosse émission de dette publique par an. Donc il y a un moment, si vous voulez, avec cette équation-là, on peut imaginer la suite. Qui n'est pas forcément souhaitable, mais imaginez la suite.
La suite, ça veut dire quoi? Alors, plus d'impôts?
C'est-à-dire qu'en fait, si vous montez les prélèvements, ou s'il y a de l'argent que vous donniez et que vous ne donnez plus, le deuxième cas, ce n'est pas une hausse d'impôts, mais en fait, l'effet est assez proche. Et ça se ressemble pas mal. Alors, j'ai à peu près la conviction qu'on ne touchera pas aux cathédrales de la fiscalité. Personne ne va oser frontalement dire on met de la TVA, ou on met de la CSG, ou l'impôt sur le revenu ceci, ou l'impôt sur les sociétés cela. Pour des raisons à peu près évidentes, on ne va probablement pas oser toucher à la taxe sur les carburants. On relève tranquillement tous les ans la taxe sur les tabacs, sur les alcools. Mais sur les carburants, c'est devenu un peu inflammable. Mais voilà, si vous coupez dans les dépenses, si vous supprimez une niche fiscale, vous avez à la fin quelqu'un qui paie. Il y a forcément un euro qui ne sera pas dans une poche qui devrait y être ou qui y était. Je vous donne quelques exemples récents. Le bonus écolo pour la voiture électrique qui est passé de 5 000 à 4 000 euros. Ah, ce n'est pas une hausse d'impôt. Mais c'est bien de l'argent en moins quelque part pour quelqu'un. Le doublement de la franchise médicale. Je ne suis même pas sûr que ça rentre dans les prélèvements obligatoires précisément. Mais enfin, il y a un moment, il y a bien quelqu'un qui paie. Quand vous dites que pour utiliser le compte personnel de formation, il faudra maintenant payer un forfait de 100 euros. C'est pas une hausse d'impôt. Ben, y a bien quelqu'un qui paie. De la même manière, quand vous décidez que vous allez réduire la niche fiscale sur le gazole non routier, c'est pas une hausse d'impôt, c'est une baisse de dépenses fiscales. Mais une baisse de dépenses fiscales, à la fin, ça finit par avoir à peu près les mêmes effets. Et je pense que cette petite liste-là, qui est pas exhaustive, c'est sans doute qu'un début.
Alors, vous allez peut-être nous lister quelques possibilités d'économie, puisque, je le rappelle, on est quand même censé tenir un budget.
Oui.
Et donc, sans doute, vous avez des idées. De là, on pourrait
aller sur... Alors, je ne vais pas vous donner d'idées particulières, je vais vous dire ce qui est dans les tuyaux. Parce que, d'ailleurs, Bruno Le Maire s'en est un peu affranchi. Donc, réforme de l'assurance chômage est dans les tuyaux, ça, il n'y a pas de problème. Il y a aussi l'idée, peut-être, de modifier le remboursement des affections longue durée.
Oui.
L'idée de modifier aussi le remboursement du transport sanitaire en taxi, qui est dans les tuyaux.
Rappelez-nous combien ça coûte, ça ?
5,7 milliards. Ça a considérablement augmenté. Il y a aussi l'idée d'indemniser peut-être différemment les arrêts maladie dans la fonction publique, pour essayer de s'attaquer au problème de l'absentéisme dans la fonction publique. Après, vous pouvez faire confiance aux esprits sado-fiscalistes, pour reprendre l'expression chère à Jean-Marc Daniel chez nos élus, pour trouver des bonnes idées. Vous avez par exemple une élue Renaissance qui a dit il faudrait taxer les compagnies pétrolières. Ou encore le rapporteur, le MoDem Jean-Paul Mattei plutôt, qui s'accroche à l'idée qu'il faut taxer les rachats d'actions. Après, il y a une catégorie qui peut se sentir à l'abri, probablement, c'est la catégorie des retraités. Parce qu'il a été question un temps, dans la bouche de Thomas Cazenave, de sous-indexer peut-être les pensions de retraite en 2025. Et ça a très 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 vite été écarté par le président de la République.
Bon, voilà. Quelques possibilités.
Mais il ne faut pas augmenter les impôts.
D'économies qui sont dans les tuyaux, ou en tout cas dans les cerveaux. Mais, a priori, la question « faut-il augmenter les impôts ?» est répondue par non.
Moi, je réponds non, mais je dis que ça n'est pas exclu. Vous savez, c'est très à la mode, ça n'est pas exclu.
C'est une possibilité. Cette chronique est à retrouver en replay, en podcast et sur YouTube si vous voulez participer à la réflexion. Vous donnez votre avis sur est-ce qu'il faut augmenter les impôts ou pas. Sur YouTube, Nicolas Dose, tous les jours pour la dose d'économie. Il est l'heure de s'occuper de votre portefeuille d'investissement, de regarder ce qu'il faut y mettre ou ne pas y mettre avec Franklin Pichard.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Bonjour cher Franklin.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes directeur général chez Kipling Finance. On va parler de couteaux qui tombent et qu'il serait bien de ne pas attraper pendant la chute. Mais avant ça, bon, on va faire le bilan quand même d'une semaine époustouflante sur les marchés, nouveau record. Même chez nous ici, du côté du CAC 40. Racontez-nous.
Oui, nouveau record à Paris, mais partout, aux États-Unis encore hier soir, les marchés payent, les marchés continuent de payer. On a un environnement économique qui n'est pas flamboyant, hein. Attention, c'est vrai qu'on a toujours une inflation qui est tendue, on a des taux d'intérêt qui sont élevés, et la conséquence pour cela, c'est que effectivement, quand vous écoutez les entreprises, eh bien, on a des révisions, on a eu des warnings très importants cette semaine encore, et on a, malgré cela, les investisseurs qui sont focalisés sur les banquiers centraux, en l'occurrence Jérôme Powell, merci Jérôme, parce que on a eu une décision, enfin des propos, qui ont réouvert cette possibilité de voir la Fed baisser les taux 3 fois avant la fin de l'année. Alors, pas maintenant, ça devait être en mars, ça devait être en juin, ça doit peut-être être en juin, ou pas. On verra un petit peu comment ça se passe. Mais ce que se disent les investisseurs aujourd'hui, c'est que finalement, après l'été, tout le monde va se bousculer pour baisser les taux. On a eu aussi l'ensemble des banquiers centraux, la Norvège, l'Angleterre, etc. La seule qui a baissé les taux hier, c'était la Suisse. Mais l'inflation est de 1,2%. Donc c'est pas compliqué dans ces conditions-là, ou 1,4. Et dans ces conditions-là, effectivement, il n'était pas compliqué de baisser ces taux de 25 points de base. Mais en dehors de ça, pour le moment, personne ne bouge. On a même eu Taïwan ou la Turquie qui, eux, remontent leur taux d'intérêt. Donc on voit que les politiques sont différentes selon la situation de chaque pays. Et en ce qui concerne États-Unis et Europe, et d'autres pays au-delà même de l'Europe, eh bien, on sent que ça va se bousculer. Et par conséquent, les investisseurs se disent, eh bien, finalement, même si on a un trou d'air avant l'été ou pendant l'été, eh bien, de toute façon, il y aura une reprise puissante des marchés, parce que quand les taux baisseront, l'économie qui est le point noir ou gris actuellement, eh bien, repartira fortement et il ne faudra pas rater le coche.
Voilà, l'effet magique du fait que la Fed a confirmé qu'elle va baisser ses taux. C'est pas encore toujours quand, mais voilà, cette parole incantatoire. Qu'est-ce que ça signifie côté valeur ? On va s'occuper de nos portefeuilles, Franklin. On va utiliser un adage qu'on utilise quasiment tous les jours dans cette émission. On ne ramasse pas un couteau qui tombe.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis très attentif à ce que nous disent nos clients, et quand nos clients voient des très fortes baisses, hein, on peut parler de Kering hier, Happy, Téléperformance ou Atos, ou Casino Rally par exemple aussi, les investisseurs particuliers sont toujours tentés de racheter, se dire c'est la bonne affaire. Le titre a baissé 33%, 76% pour EuroAPI, 76% pour Atos également depuis le mois de janvier. Et puis on frôle le 76% sur EuroAPI, c'est sur un an glissant. Et les investisseurs se disent, mais finalement, est-ce que c'est pas le moment de rentrer sur la valeur ? Atos idem, et Téléperformance aussi. Et finalement, ceux qui ont fait cette opération se sont un peu brûlés les ailes. Donc, il y a ce vieux dicton en bourse qui est de dire qu'on ne rattrape pas un couteau qui tombe au risque de se couper. Et aujourd'hui, il y a tellement de belles affaires avec de belles perspectives, il n'est pas nécessaire d'aller croire qu'on fait une opération avec un discount de 30 ou 70%. Il y a peut-être une autre explication, et le rebond n'est pas forcément pour demain sur ce type de valeur. Et en disant ça, à un moment on a cru au rebond de Téléperformance, on a imaginé que le pire était derrière nous, eh bien voilà, une fois encore, on aurait pu se tromper, on s'est trompé. Il faut pas toucher aux titres qui sont dans la tourmente et attendre d'être revenu vers des eaux plus calmes.
Couteau qui tombe ou valeur au tapis, comme le disait un de nos deux Antoine tout à l'heure.
C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, quand elles sont au tapis, il n'y a plus rien à attendre. Et qu'est-ce qu'une valeur au tapis ? Atos est au tapis, mais compte tenu...
C'est un penny stock.
Oui, alors on l'a vu avec Orpea, quand ça devient des penny stocks, il va y avoir un regroupement par mille. Et d'ailleurs, depuis que ça a été annoncé, depuis qu'on a annoncé le changement de nom sur Orpea, qui va s'appeler Nous en grec ancien, le titre a pris d'abord 15%, 25% avant-hier, il avait repris 10% hier matin, ça s'est un petit peu calmé dans la journée, mais on voit que effectivement la solution au penny stop, on fait des regroupements, ça ne règle pas tout, bien évidemment, mais une valeur au tapis est une valeur en danger, et il faut l'analyser promptement pour savoir ce qu'il en est réellement.
Il y a tellement de belles affaires ailleurs, vous nous dites. Est-ce que vous nous citez deux, trois valeurs que vous suivez attentivement et que vous allez suivre dans les prochains jours ?
Mais écoutez, bien sûr, il y a les valeurs qui progressent très très fortement depuis le début de l'année et qui sont dans la lignée de celles qui progressaient l'année dernière. Et là aussi, il faut aduler les stars et ne pas croire que l'expérience est terminée. Quand vous voyez ASML, Safran, Stellantis, Hermès, Renault, Accor, Airbus ou Schneider, qui sont tous des titres qui progressent de plus de 20% depuis le début de l'année. Et ça n'est pas illusoire, parce que certains de ces titres-là viennent de très très loin. D'autres s'inscrivent dans une hausse qui a presque 2 ans maintenant. Quand vous regardez Safran, Safran fait 99% sur 2 ans. Mais avec un marché de l'aéronautique qui continue de très bien se porter, on a véritablement, c'est plutôt malgré tout sur ces titres-là. Vous vous souvenez de cette fameuse expression que j'avais citée un jour à l'antenne, ce proverbe tibétain qui dit que quand on est en haut de la montagne, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer de monter. Eh bien voilà, on s'est raconté ça il y a 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus. Eh bien ça s'est pour le moment avéré, mais c'est au-delà de la formule. Il ne faut pas avoir de tabou, il ne faut pas avoir peur de racheter un titre plus cher qu'on ne l'a vendu. Ça c'est une décision contre nature pour un gérant de vendre à 100 et de se dire à 120 il faut que je la rachète. Eh bien pourtant oui, il faut le faire. Nvidia vaut beaucoup moins cher qu'il y a un an. Le titre a progressé de 240%, mais la croissance attendue est de 450%. Donc le titre finalement se paye moins cher que l'année dernière. Donc ceux qui ont pris leurs bénéfices sur Nvidia à une époque peuvent se dire, même au niveau actuel, finalement je la rachèterai moins cher que le cours auquel je l'ai vendu. Donc voilà, il y a toute une psychologie de marché et où pour le moment, les investisseurs sont ancrés dans cette conviction que les banquiers centraux vont agir rapidement ou pas, peut-être avant 2024. J'avais même imaginé et entendu cette petite musique que commence à dire, alors certains en off parce que leur maison, ce n'est pas la parole officielle de leur maison, mais certains disaient finalement, s'il n'y avait pas de baisse des taux en 2024, si l'inflation restait quand même soutenue, si la croissance était suffisante, est-ce qu'il faut vraiment se tirer une balle dans le pied et prendre le risque de voir l'inflation repartir? Donc pour le moment, et c'est pas la première fois que ça se produit, on a souvent vu le marché qui réagissait très favorablement dès que Jérôme Powell ou Christine Lagarde tenaient des propos plutôt rassurants et optimistes. Et puis, un Guéluron de la Banque Centrale Américaine va nous dire dans 8 jours ou 15 jours que finalement il n'en est pas question et on peut avoir une petite correction, mais rien de grave en tout cas.
Voilà, un peu comme Vanguard, le plus gros provider d'ETF qui voilà, verbalise déjà le fait qu'eux, ils ne croient pas à une baisse de taux en 2024. On verra qui a raison finalement au mois de janvier 2025. Merci Franklin Pichard pour ce regard sur cette semaine boursière contre vents et marées, le marché continue de payer. Le mot de la fin, ce sera merci Jérôme. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. On va parler, tiens, on va continuer à parler de marché. On va parler des événements pricés. Vous savez, cet anglicisme pour dire que voilà, quand il y a une nouvelle information, mais qu'elle a déjà été intégrée par les investisseurs et dans les cours de la bourse, que faut-il en faire? On réfléchit à ça, on vous coach. C'est Marc-Antoine Raffard du Café de la Bourse qui se connecte pour vous éclairer, pour vous coacher d'ici quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
Notre coach tombe à pic puisque nous allons définir et essayer de comprendre ce que c'est qu'un événement pricé par le marché. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Lorraine, comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Marc-Antoine Raffard, expert bourse et puis membre de l'équipe du Café de la Bourse, pour nous coacher, nous faire un petit peu de pédagogie autour de cet anglicisme pricé. Qu'est-ce que c'est qu'un événement pricé par un marché, Antoine, Marc-Antoine, et expliquez-nous pourquoi ça nous concerne en tant qu'investisseur particulier.
Alors, je ne saurais pas traduire ce terme anglophone. C'est pour ça qu'on utilise pricé. Bon, désolé pour les adeptes de la francophonie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bourse, il y a un certain nombre de facteurs qui vont influencer les cours des indices, les cours des actions. Pour les actions, on va plus regarder les résultats de l'entreprise. Pour les indices, on va regarder aussi la macroéconomie, le taux de chômage, l'inflation, les taux d'intérêt. On en a parlé juste avant. Donc tous ces facteurs qui impactent les marchés. Et quand on a un petit peu appris comment fonctionnent les mécaniques des marchés financiers, eh ben on comprend qu'une hausse des taux, c'est pas bon pour les valeurs tech. Une baisse des taux, c'est plutôt profitable pour les indices, par exemple américains. Et c'est au cœur de l'actualité. En ce moment, on en parle beaucoup. Si c'était si facile, je pense que ce serait merveilleux. Malheureusement, c'est pas aussi facile parce que on est tous là à attendre derrière nos écrans ou dans nos salles de trading ce qui pourrait se passer dans les prochains mois au niveau de la Fed ou même on parlera aussi du halving sur le Bitcoin qui est très attendu au mois d'avril. Donc tout ça, ce serait trop facile s'il suffisait juste d'attendre que le chiffre soit annoncé pour que ça définisse la tendance à venir des marchés. Ça serait trop facile. Et tout le monde est derrière ses écrans, tout le monde essaye d'anticiper. Et c'est ce phénomène d'anticipation qui fait que parfois, finalement, ça se passe pas comme prévu, puisque si un événement est très attendu et qu'il y a une forte probabilité qu'il se réalise, finalement, il va être ce qu'on appelle pricé par le marché, c'est-à-dire que l'information, finalement, elle est déjà intégrée dans les cours de bourse présente pour un événement qui est futur. Est-ce qu'il risque de se passer dans ce cas-là? C'est que quand l'annonce est faite, finalement, il n'y a pas d'effet de surprise, tout s'est passé comme attendu, et finalement, on a même parfois l'effet inverse. Alors, soit on n'a pas d'effet du tout sur le marché, soit on peut même avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que tous ceux qui ont spéculé en amont, finalement, quand l'événement tombe, finalement, ils prennent leurs bénéfices, ils disent, c'est bon, le scénario s'est réalisé, et du coup, ça peut créer une petite correction. Donc, en fait, c'est ça, un événement, quand il est pricé, c'est qu'il n'y a plus de surprise sur les marchés.
Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de FOMO, qui est un autre concept qu'on a déjà évoqué avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples récents d'événements déjà pricés par le marché? Par exemple, est-ce que la décision de la Fed, ou en tout cas la prise de parole de Jérôme Powell d'hier, était déjà pricée?
Alors, c'est un excellent exemple, tout à fait d'actualité, assez difficile à trader parce qu'il y a énormément d'attentes dessus. Donc, plus un événement, plus il est attendu, plus il y a de stress, plus il y a de tension, plus il crée de volatilité, plus il est difficile à trader et à anticiper. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis la fin de l'année 2023, depuis novembre-décembre, il y avait une grosse anticipation de baisse des taux parce que pourquoi les taux ont monté? Les taux ont monté pour lutter contre l'inflation. Mais il se trouve que en fin d'année 2023, l'inflation, elle a quand même bien baissé. Elle est revenue à des niveaux qui sont proches des niveaux cibles de la Fed. Donc, il y a eu commencé à avoir ces anticipations de se dire, l'inflation baisse potentiellement, à mon avis, pourrait y avoir une baisse des taux prochainement. Ouais. Et jusqu'en mi-février, jusqu'à fin février, on va dire que cette anticipation était valide. Malheureusement, début mars, les chiffres de l'inflation sont tombés aux États-Unis et elle était légèrement en hausse. Donc là, ça a été mouvement de panique. On s'est dit, oula, attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, on remet pas tout en cause? Ce qui a créé un petit trou d'air sur le Nasdaq, sur lequel je me suis fait avoir, en plus, au passage. Donc j'ai suivi de très près le truc parce que j'étais en position. Et au final, Jérôme Powell, lui a annoncé que non, quoi qu'il en soit, il garde son plan et il garde l'objectif de faire 3 baisses des taux, je crois, au cours de l'année 2024 et que rien ne changerait. Maintenant, attention, c'est un discours. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça pourrait encore changer. Si l'inflation augmente encore, ça pourrait changer. Et ce n'est pas rare que les banquiers s'en trop, les gouverneurs ou les comités disent blanc et puis font noir, ou chaud ou froid. Ils jouent un peu avec ça aussi.
Voilà,
ou gris.
Un événement qui est très attendu et dont on parle régulièrement sur les sujets, dans le cadre des sujets crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle le halving du Bitcoin. Amaury de Tonquédec nous en parle régulièrement, il nous fait le décompte. C'est un événement qui va avoir lieu au mois d'avril, dans quelques semaines. Expliquez-nous comment on price ou on ne price pas ce qui pourrait se passer au moment du halving dans le cours du Bitcoin et évidemment de toutes les crypto-monnaies qui sont en satellite autour du Bitcoin.
Alors, le halving, c'est un événement très important sur les cryptos. Juste en rappel, c'est la récompense de minage qui diminue de moitié. En l'occurrence, on va passer de 6,25 bitcoins par bloc à 3,125 bitcoins par bloc produit. C'est un événement très attendu parce que jusqu'à présent, à chaque fois que ça a été à chaque fois que ça s'est produit, s'en est suivi une forte hausse du Bitcoin. Ce qu'il faut prendre en compte, et ça c'était pas forcément vrai au dernier halving, parce que les halvings c'est tous les 2 ans. Donc il y a 2 ans, on n'était pas du tout dans le même contexte de marché. Aujourd'hui, on a les ETF Bitcoin qui sont arrivés aux États-Unis. On a donc du coup beaucoup plus d'institutionnels qui sont présents, et les institutionnels, c'est souvent eux justement qui ont tendance à essayer d'anticiper le plus possible. Donc, c'est eux qui vont créer les retails. Alors, Bien sûr, il y a différents niveaux. Il y a les débutants, il y a les intermédiaires, il y a les experts en investisseurs particuliers ou en traders particuliers. Mais en général, c'est vrai que les débutants, ils vont moins faire attention à ces phénomènes de pricing, d'anticipation. Ils vont plus prendre les événements au jour le jour. Donc, jusqu'à présent, c'est vrai que quand le halving était annoncé, oh, paf, le marché est monté. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus institutionnel sur le Bitcoin. Et c'est un événement qui laisse pas la place au doute. C'est-à-dire que, comme on parlait tout à l'heure des taux de la Fed, il y a encore toute une incertitude autour des taux de la Fed. Donc, il y a encore potentiellement un effet de surprise qui peut arriver. Sur le Bitcoin, il n'y a pas d'effet de surprise qui puisse arriver, sauf peut-être la date qui évolue un tout petit peu. Elle n'est pas très précise, la date, parce qu'elle évolue en fonction du nombre de blocs qui sont minés.
Oui.
Donc, s'il y a plus ou moins de transactions, elle peut avancer ou reculer, la date. Mmh. Donc, mais par contre, on sait exactement ce qui va se passer. Il n'y a pas de surprise. Donc, mon anticipation, c'est que tous ceux qui sont institutionnels, donc ceux qui ont des gros capitaux, ce qu'on appelle les baleines sur les cryptos ou les gros investisseurs institutionnels qui interviennent à travers les ETF, eux, ils vont pas se faire prendre au jeu de la surprise au moment de l'annonce. Par contre, il pourrait y avoir un tout petit peu du FOMO, on en reparle, des particuliers retardataires qui se disent « Oh zut, le halving, je vais investir ». Mais à mon avis, ça va pas créer non plus un gros mouvement, le vrai, ce qu'on appelle market mover, donc le vrai phénomène impactant sur les cryptos, à mon avis, c'est plus les ETF et l'arrivée de ces ETF sur le marché américain.
Bon, impossible de faire une chronique sur ce qu'on appelle un événement pricé sans utiliser cet adage boursier. On achète la rumeur et on vend la nouvelle. Expliquez-nous, rappelez, décryptez-nous pour ceux qui nous écoutent ce que ça signifie.
Et c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que tant qu'on est dans l'incertitude, il y a de l'argent à faire. Parce qu'il faut bien comprendre que sur les marchés financiers, alors je parle de spéculation court terme, on n'est pas du tout dans le cadre de ceux qui achètent des ETF à long terme et qui laissent courir leur capital et grossir leur capital. Là, on est dans la spéculation court terme. Donc, si vous voulez, tant qu'il y a de l'incertitude, il y a de l'argent à faire. À partir du moment où un événement est certain, il n'y a plus d'argent à faire. Pourquoi ? Parce que ce qui rémunère quand on fait de la spéculation à court terme, c'est le risque. S'il n'y a pas de risque, donc si un événement est certain, qu'il n'y a pas de doute possible, il n'y a pas de risque. Donc du coup, il n'y a théoriquement pas d'argent à faire. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, il faut acheter la rumeur. Donc tant qu'il y a de l'incertitude sur les taux, tant qu'il y a de l'incertitude sur l'inflation, on ne sait pas si l'inflation va encore monter ou pas, on peut se positionner. Alors après, bon, faut être un expert ou alors s'appuyer sur les analyses d'experts pour déterminer est-ce que je pense que l'inflation va monter ou baisser, est-ce que je pense que les taux après ça vont monter ou baisser. Donc ça, faut c'est le travail d'analyse. Et sur cette base-là, après, vous faites votre, entre guillemets, j'ai pas envie de dire utiliser ce terme-là, mais votre pari, mais c'est pas, voilà, votre anticipation, on va dire plutôt, et vous achetez la rumeur. Donc vous dites, bon, moi, je pense qu'il va y avoir une baisse des taux ou une hausse des taux. Quand les faits d'annonce est fait, quand l'annonce est faite, à ce moment-là, vous prenez vos gains puisque le marché aura déjà au fil du temps anticipé ce qui se produira.
Voilà, l'idée, c'est de bien comprendre les dynamiques sous-jacentes d'un événement déjà pricé pour finalement en fait prendre des décisions non pas sur des faits et des infos qui sont déjà là, mais des potentiels faits, des potentielles informations qui tomberaient prochainement. Alors,
On a la chance d'avoir les informations aujourd'hui en temps réel grâce à des médias comme vous. Il faut rappeler qu'il y a quelques temps, c'était dans les journaux. Donc, c'était encore pire. On recevait le journal le matin et on avait la news de la veille. Donc, c'était encore pire. Mais même aujourd'hui, même avec l'actualité qu'on a et en temps réel, il faut quand même toujours avoir un temps d'avance si on veut s'en sortir en bourse.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Raffard de l'équipe du Café de la Bourse pour ce décryptage, pour ce coaching, un événement pricé. Vous aussi, vous avez des besoins de pédagogie sur des termes de la finance, sur des expressions ou tout simplement sur des stratégies d'investissement, vous nous écrivez une seule adresse directe à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn, je vous lis en message perso, vous pouvez m'écrire aussi. Puis on mobilise les meilleurs experts de France et d'ailleurs pour pouvoir répondre à vos interrogations et vous aider à mieux gérer vos finances personnelles, à mieux envisager votre vie d'investisseur ou d'investisseuse. On marque une petite pub et après l'info éco avec Stéphanie Collot, le point sur le CAC 40 avec Antoine et puis une demi-heure d'immobilier pour répondre à toutes vos questions et vos interrogations. Et puis, on finira également par la semaine en crypto, le point sur toutes les actualités Web3 et crypto-monnaie pour finir l'émission. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.